online.
AfriJet Fly Gabon, le cœur de l'Afrique vous est ouvert.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et le journal avec vous, Xavier Besson, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une de l'actualité africaine ce matin, les combats autour de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, là où l'armée congolaise et ses alliés affrontent les rebelles M23, soutenus par le Rwanda. Combats qui se sont concentrés hier autour de Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Ils ont repris ce matin au nord de la capitale du Nord Kivu. Dans ce journal également, les réactions à Libreville au Gabon, après l'annonce par le gouvernement de la transition de la date de l'élection présidentielle le 12 avril prochain. La Centrafrique, qui vient de présenter l'un des plus gros diamants extraits de ses mines. Nous serons aussi en Afrique du Sud, où des familles se retournent contre l'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, et l'accusent justement de ne pas en avoir assez fait en matière judiciaire pour juger les crimes du régime raciste sud-africain. Et au Cameroun, pour notre dossier ce matin, à Yaoundé, où l'on s'est intéressé à l'avenir du cinéma africain à l'heure de l'intelligence artificielle. De nouveaux combats signalés ce matin, non loin de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après notre correspondant en RDC, des tirs ont été entendus dès 4h du matin, heure locale, au niveau de Kibumba, c'est au nord de Goma. Alors que la situation ce matin était plus calme à Sake, cette localité qui a concentré l'essentiel des violences hier. Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu. Affrontement qui oppose les forces armées congolaises et leurs différents alliés aux combattants du M23, groupe rebelle soutenu par l'armée rwandaise. Le point sur les forces en présence avec Paulina Zidi à Kinshasa.
Plusieurs fois dans la journée de ce jeudi, des témoins ont vu des hélicoptères venir bombarder les positions du M23 et de l'armée rwandaise dans les environs de Sake. Des renforts aériens confirmés dans la journée par les autorités militaires de l'Est qui ont assuré que toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser et protéger Goma. Les FARDC et les Wazalendo, les groupes d'autodéfense alliés de Kinshasa, ne sont pas les seuls dans cette zone de Sake. Il y a aussi les forces de la MONUSCO, la mission onusienne et de la SAMIDRC. Ce sont les troupes de la communauté d'Afrique australe, principalement des troupes sud-africaines. Ces deux entités ont rejoint dans la journée les militaires congolais sur le front. La MONUSCO qui a confirmé avoir activé et renforcé l'opération Springbok en collaboration avec les militaires congolais et ceux de la SADC. Une opération qui vise à défendre des positions dans et autour de Sake et de Goma, avec comme mission prioritaire d'assurer la sécurité des routes et des approvisionnements. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Des combats qui ont jeté sur les routes de nombreux habitants de Sake et des alentours, dont certains étaient déjà eux-mêmes des déplacés et qui ont pris la route de Goma. Reportage dans une heure dans le prochain journal Afrique sur RFI. Tandis que des habitants de la capitale du Nord Kivu, eux, se sont pressés au poste frontière avec le Rwanda. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit alarmé. Antonio Guterres qui condamne l'offensive des rebelles du M23 et qui, pour le chef de l'ONU, accroît, je cite, le risque d'une guerre régionale. Au Gabon, les réactions n'ont pas manqué hier à Libreville au sein de la classe politique, alors que mercredi soir, le gouvernement de la transition annonçait que l'élection présidentielle, celle qui justement doit mettre fin à la période de transition entamée après le coup d'État de 2023, l'élection présidentielle donc aura lieu le 12 avril prochain, c'est-à-dire dans moins de 3 mois à Libreville. Yves-Laurent Goma.
Ancien vice-président de la République, Pierre Claver Maganga Moussavo, conteste la nouvelle constitution et le nouveau code électoral. Il explique avoir été piqué au vif à l'annonce de la date du premier tour de l'élection présidentielle dans moins de 3 mois.
Nous refusons catégoriquement ces dates qui ne sont pas consensuelles, concertées par la classe politique. C'est une aberration et nous invitons à plus de concertation, à un dialogue, non pas dans la peur, mais dans la sérénité.
Pierre Claver Maganga Moussavou accuse le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema de se tailler un processus électoral à la hauteur de ses ambitions politiques. Ce n'est pas l'avis de Gérard Elan Nguema, président du Front Patriotique Gabonais, député et troisième secrétaire de l'Assemblée nationale.
Nous sommes d'accord avec cette date. Nous pensons que la décision prise par le dernier Conseil des ministres est une bonne décision pour que nous puissions retrouver l'ordre constitutionnel dans les tout prochains jours.
Tous les textes en vigueur autorisent le général Oligui Nguema à être candidat à la présidentielle. Mais le président de la transition maintient le suspense. Des leaders politiques et de la société civile lui demandent de respecter sa promesse de remettre le pouvoir aux civils après avoir organisé des élections libres, crédibles et transparentes. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et la présidentielle gabonaise, on en parle aussi avec notre invité Afrique ce matin, le chercheur Bergès Mieté. Pour lui, ça ne fait pas doute que le président de la transition, le général Oligui, devrait se présenter. Le chercheur Bergès Mieté entretient avec Christophe Boisbouvier dans une dizaine de minutes. C'est une pierre précieuse qui fait la fierté des autorités de Bangui, un diamant de près de 178 carats, l'un des plus gros de l'histoire de la Centrafrique, extrait dans le sud du pays et présenté hier. Il va pouvoir être mis sur le marché de manière légale puisque la Centrafrique a été réintégrée à la fin de l'année dernière dans le processus de Kimberley, ce système de certification des diamants. Écoutez Paul Cressan-Beninga, membre de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley.
Il faut saluer aussi la transparence dans laquelle les choses sont en train d'être faites, parce que dès que le diamant a été extrait, le diamant est découvert, on n'a pas fait dans le Katimini, on a amené le diamant au niveau des services compétents, en l'occurrence le Bec d'Or et le secrétariat du poste de Kimberley, et il y a toute une procédure, il y a toute une ingénierie permettant de faciliter l'exportation de diamants, ça permet de tracer ce diamant, et donc le fait aujourd'hui que ce diamant se trouve au niveau du Bec d'Or à Bangui, c'est déjà un bon signe. Ça témoigne de cette volonté de faire toute la transparence autour de ce diamant-là. Un diamant de cette taille-là, ça ne profite pas qu'au collecteur, mais aussi à l'État centrafricain. Mais ce qui est extrêmement important, c'est la communauté dans laquelle le diamant a été extrait. Nous plaidons pour que le contrat qui va être conclu entre l'État centrafricain et l'organisation ou la personne qui va acheter ce diamant, qu'on tienne compte également en termes de pourcentage de la communauté. C'est extrêmement important. Il faut qu'un fonds soit versé pour le développement de la commune de Zakou.
Paul Cressan-Beninga de la coalition pour la société civile du processus de Kimberley, joint par Charlotte Cossé. Et à propos de l'État centrafricain, notez que dans son discours sur l'état de la nation, le président Faustin Archange Touadéra a indiqué que la production de diamants avait rapporté en 2023 environ 550 000 euros de taxes. RFI 8h37 à Johannesburg, plus de 30 ans après, l'Afrique du Sud n'en a pas fini avec l'époque de l'apartheid. Aujourd'hui, des familles de victimes de ce système raciste en vigueur entre 1948 et 1991 se retourne contre l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994. Ces familles l'accusent de ne pas avoir donné suffisamment de suite judiciaire à la commission Vérité et Réconciliation qui avait permis aux victimes et aux bourreaux de s'exprimer dans les années qui ont suivi l'avènement de l'ANC. Correspondance de Valentin Hugues.
Yasmine Souka était membre de cette commission Vérité-Réconciliation qui a pris fin en 1998.
Pendant 3 ans, la commission a entendu des victimes et des bourreaux. L'État devait ensuite prendre le relais et faire son travail, ouvrir des enquêtes, mais il ne l'a pas fait.
Depuis la fin de l'apartheid, il y a eu très peu de procès, alors les familles attendent toujours des réponses. Lukanyo Kalata est le fils de Fort Kalata, militant anti-apartheid, tué en 1985 à 28 ans.
Ils ont brûlé son corps et lui ont arraché la langue. Puis, dans un pays devenu une démocratie, l'ANC est arrivé au pouvoir et mon père a été trahi. Parce que finalement, qu'est-ce qui est pire ? Le gouvernement d'apartheid qui a tué mon père ou l'ANC qui a refusé de lui rendre justice ?
For denying him justice. Aujourd'hui, ces familles demandent donc des comptes à l'État. Odette Gildenius, avocate en charge du dossier. Perpetrators
have died. La plupart des meurtriers sont morts. Le dernier recours pour ces familles, c'est de se tourner vers la cour et forcer le président à identifier les politiques qui ont fait obstruction à la justice, comprendre pourquoi ils ont agi ainsi et réfléchir à ce qui peut être mis en place maintenant pour ces familles.
Des familles qui regrettent que 30 ans après la fin de l'apartheid, elles aient encore à saisir la justice pour espérer obtenir des réponses. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
à accélérer encore la vaccination contre le Mpox. L'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine, a fait hier un point sur les efforts en cours face à l'épidémie en ce moment en Afrique centrale, en particulier en République démocratique du Congo. Écoutez le docteur Ngashingongo, le référent Mpox au sein de l'Africa CDC.
En décembre, nous avions rapporté que 55 000 personnes avaient été vaccinées. Au cours des quatre dernières semaines, la majorité des vaccinations a eu lieu à Kinshasa, où ce chiffre est passé à près de 180 000 personnes vaccinées. Cela représente une augmentation de 125 000 individus supplémentaires. La campagne de vaccination se poursuit à Kinshasa, mais une évaluation a révélé des faiblesses dans le ciblage des populations et l'approche adoptée, en particulier dans des zones sensibles comme Pakachuma. Ces endroits, caractérisés par une forte densité de population et des comportements à risque, compliquent le contrôle des contacts. Pour mieux contenir l'épidémie, les autorités congolaises ont décidé de vacciner toute la population dans ces zones à haut risque et d'instaurer une vaccination quotidienne, ce qui n'était pas systématique auparavant. L'objectif est d'intensifier les efforts pour accélérer la réponse vaccinale. Avec ces ajustements, on espère stabiliser la situation d'ici la fin février ou le début du mois de mars.
Le docteur Ngashingongo de l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine. Enfin, avant de retrouver Julien Coquelroem, notre dossier ce matin nous emmène au Cameroun, à Yaoundé, où s'achève ce week-end la semaine internationale du premier film et où l'on s'interroge entre autres sur l'avenir du cinéma africain à l'heure de l'intelligence artificielle. Reportage de Richard Onanena.
À Doum, Djibrin Paterman, un formateur en innovation cinématographique franco-tchadien et une dizaine de cinéastes échangent au siège du Festival Yara au quartier Colliton. Le thème de l'atelier, la place de l'intelligence artificielle dans le cinéma d'aujourd'hui. À Doum, Djibrin.
L'IA, en l'utilisant bien et en apprenant justement à bien l'utiliser pour qu'elle puisse devenir une forme d'entraîneuse, elle donne la capacité d'accéder n'importe où. On parle vraiment aujourd'hui d'une révolution et je crois fortement aux capacités de nos compatriotes du continent.
Pour les producteurs, acteurs ou encore scénaristes qui prennent part à cet atelier, cela sonne désormais comme une évidence. L'avenir du cinéma africain se fera avec l'intelligence artificielle. Gérard Nguélé, producteur de cinéma camerounais.
L'IA doit être considérée comme une opportunité infinie, un univers de possibles. Et pour le cinéaste, l'équation est simple, s'adapter ou disparaître.
Après 4 jours, Ange Dibinatini, un jeune scénariste camerounais, a décidé de faire de cet outil un allié.
Lorsque tu as déjà ton histoire que tu veux raconter, que tu veux partager avec le monde, celle-ci peut te donner des alternatives. Ce qui fait que finalement, l'intelligence artificielle devient pour le scénariste, le meilleur allié même.
Cette semaine, le Festival Yara a présenté The Last Screenwriter, un film réalisé avec l'intelligence artificielle par le Suisse Peter Luzi. Et Sharon Alénard, Yaoundé, RFI.
Et qui dit intelligence artificielle, dit potentiel bouleversement dans tous les domaines de la création intellectuelle. La directrice du festival, Sylvie Nouette, reconnaît que cela peut faire peur, mais que de toute façon, l'IA est déjà là et il faut faire avec.
Maintenant, l'intelligence artificielle est partout. Il y a de quoi avoir peur, mais en même temps, nous savons bien que c'est un outil. Et cet outil-là, maintenant, l'Afrique, et l'Afrique centrale en particulier, en a besoin pour développer son cinéma, peut-être gagner en temps et créer plus. À partir du moment où le cinéma est une industrie, et que l'industrie est censée être un vecteur économique puissant. Si l'Afrique peut l'utiliser pour devenir comme Hollywood, Bollywood, etc., pourquoi pas? Maintenant, l'outil n'est que l'outil, parce que c'est l'humain qui le fait, qui fabrique cet outil-là. L'être humain sera toujours au centre. L'être humain pourra toujours avoir une vision, une mainmise sur cet outil. Il nous revient à nous de savoir justement comment l'utiliser une fois de plus.
La directrice du festival Yara à Yaoundé, où il est maintenant 7h44. Et vous êtes...